France Inter, le 7-9.
Léa Salamé, 7h48. Votre invité ce matin est un homme à mille vies. Scénariste, dramaturge, conteur, j'en oublie.
Oui, parolier, traducteur. Qu'est-ce qu'on oublie aussi?
Agriculteur.
Agriculteur. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On s'est tant troublé à quelques jours de Noël. On avait envie d'un médecin de l'âme, d'un maître de sagesse. Et qui mieux que vous pour cela? Alors, avant de parler de votre livre, La Vallée du Néant, chez Odile Jacob, d'abord j'avais envie de vous demander quel regard vous portez sur cette soudaine, violente éruption de colère qui a traversé la France. La colère est-elle une vertu dans la société?
Oui, sans doute. Mais j'ai un regard un peu inquiet parce que je suis historien de formation et dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Dès que l'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Il faut se méfier de ça.
C'est grave ce que vous dites.
Oui, c'est une chose qu'on n'a pas dite.
C'est-à-dire qu'il faut avoir peur du peuple, peur de ce qu'il pense.
Il faut avoir peur du référendum. Parce que le référendum contient sa réponse dans sa question, quand il s'adresse au peuple. Oui. Et Mussolini est arrivé au pouvoir comme ça. Il faut s'en méfier beaucoup. Nos institutions ne sont pas parfaites.
Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, vous dites là votre inquiétude, vous qui avez connu la guerre, vous dites votre inquiétude.
Oui, parce que je suis le plus vieux ici, nettement. Mon inquiétude
de la montée des nationalismes,
oui,
de la désagrégation de l'Europe.
Tout le monde est inquiet, je crois, dans toute l'Europe. On revient à une espèce de féodalité. Tous les pays se referment sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là, comme au Moyen-Âge? On va bientôt se faire la guerre, de nouveau.
Vous écrivez, nous savons déjà, pour l'avoir déjà vécu, comment tout cela se terminera.
Oui, c'est ça que ça se terminera, par des invasions. J'ai reçu l'autre jour des amis de Pologne, qui étaient absolument désolés de ce qui se passe, ils voient revenir un pouvoir ultra-clérical d'extrême droite, et ils me disaient, on va se battre avec la Hongrie. On va rentrer en guerre avec la Hongrie, comme autrefois. On n'arrive pas à voir à quel point le fait de se ramasser sur soi, de dire nous sommes le même peuple, contient de danger.
Le mot de peuple vous fait peur d'ailleurs.
Le mot de peuple n'a pas de sens.
Pourquoi?
Parce que le peuple c'est vous, c'est moi. En général, quand on parle par exemple du peuple sous la Révolution française, on parle des petites gens. On parle des gens à qui on ne donne jamais la parole. Mais en fait, le peuple c'est tout le monde. Et le peuple est très très influençable. Je voulais dire aussi tout à l'heure, j'écoutais les problèmes de Monsieur le maire et ça, que dans, il y a d'autres systèmes. On a oublié que quand Napoléon est parti pour la campagne de Russie, il a emporté plusieurs chariots pleins de faux roubles qu'il avait fait imprimer à Paris pour acheter de la nourriture aux paysans russes. Oui, ça peut aller jusque-là. C'est allé jusque-là.
Qu'est-ce qui pourrait nous apaiser alors? Qu'est-ce qui pourrait empêcher le lent déclin vers la guerre?
Alors, je ne sais pas s'il faut nous apaiser. Parce que je crois qu'une agitation, une nervosité est essentielle à la vie. Est essentielle à la vie d'un pays. On n'imagine pas un pays endormi comme ça,
Il dormait, le pays jusque-là?
Il avait tendance à s'endormir, oui. Dans les dernières législatures. C'est-à-dire à faire tomber dans ce que beaucoup de chroniqueurs politiques appellent le ronron, d'un tel qui fait la même chose. Il dit « je ferai le contraire de mon prédécesseur », il fait la même chose, ainsi de suite. C'était un peu ce qui arrive à Macron, qui se trouve devant les mêmes problèmes financiers que les autres.
Oui.
Qui sont comment financer des retraites que l'on annonce en augmentation, etc.
Vous méfiez du référendum, mais vous saluez la colère des Gilets jaunes? Ou non, elle vous a pas parlé?
Non, de toute façon, moi je suis toujours en colère, donc d'où qu'elle vienne. Mais je me méfie, c'est très très brouillon, les Gilets jaunes, il y a de tout dedans. Tout le monde l'a dit, tous les commentateurs l'ont remarqué, il y en a de droite, de gauche, il y a des anarchistes, il y a des canailles, il y a un peu de tout, il y a des très très braves gens aussi. Donc on ne peut pas, en ce moment, dire « les Gilets jaunes sont ceci ». C'est mille choses à la fois.
Sylvain Tesson, grand voyageur autour du monde, s'étonnait il y a quelques mois, à ce micro même, de la grande déprime des Français, un peuple très malheureux alors qu'il devrait se réjouir s'il se comparait aux autres. Il disait « la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ».
C'est tout à fait vrai. Moi, je suis vous le savez sans doute, marié à une Iranienne. Je vais souvent en Iran et dans d'autres pays, en Inde, j'ai beaucoup vécu. On nous dit, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous avez tout, une médecine gratuite, une éducation gratuite. Ça me rappelle, pendant mai 68, j'étais à Paris avec Miloš Forman, qui venait d'un pays communiste, et Luis Buñuel, qui venait de l'Espagne franquiste, qui me disait, mais pour, contre quoi vous révoltez-vous? Miloš me disait, pourquoi mettez-vous tant d'efforts à hisser le drapeau rouge? Nous avons tant de mal à le faire descendre.
Alors parlons un peu de votre livre, La Vallée du Néant, où vous parlez, c'est un livre sur la mort et sur comment affronter...
Les abords de la mort.
Oui, comment affronter les abords de la mort. Vous dites la mort dont au fond c'est le sujet, le plus grand sujet. Il n'y a pas plus important. Votre livre est une promenade à travers les époques et les solutions des peuples pour affronter leur propre mort. Il se trouve que j'ai interrogé ces deux derniers jours deux hommes sur la mort qui avaient une position diamétralement différente. Jean-Louis Trintignant qui a dit à ce micro « Oui, je l'avoue, j'ai peur de la mort ». Et Bernard Tapie hier à votre place qui disait « Moi, pas du tout, ça ne me fait pas du tout peur la mort ». Et vous ?
Moi, je suis dans la position de Montaigne qui dit « Ce n'est pas la mort ». Qui est redoutable, c'est le mourir. C'est-à-dire la souffrance qui la mort, c'est fini. On n'a plus aucune conscience, aucun sens après la mort. Mais le passage peut être très douloureux. Surtout si on est conscient et si on souffre en même temps. Donc les deux attitudes peuvent se comprendre.
Vous racontez la mort de vos amis, notamment celui avec qui vous avez écrit parmi les plus beaux films de l'histoire du cinéma, Belle de jour, Le journal d'une femme de chambre, et j'en passe, à savoir Luis Buñuel, dont vous écrivez, il a eu une mort idéale.
Oui, il a mort, et parce que pour un Espagnol, la mort n'est pas tout à fait la même chose que pour nous. C'est une action, la mort, vous voyez, c'est, on meurt, je meurs, c'est moi qui meurs, c'est pas vous, c'est pas un autre. Et il avait 83 ans, il était très malade, il était à l'hôpital. Sa femme, qui me l'a raconté, lui tenait le poignet, lui tenait le pouls. Et elle sentait ce pouls s'affaiblir. Et à un moment donné, il a dit « Ya me muero ». Maintenant, je meurs. Et son pouls s'est arrêté au moment même où il prononçait ces mots. Je suis sûr qu'il était heureux de ça pendant une fraction de seconde. Que sa mort soit sa dernière action.
Il y a aussi ceux qui choisissent l'humour. Autre de vos amis, Pierre Desproges.
Ah oui, ça, Pierre Desproges étant été tant d'autres, et avant lui, Nasreddin Hoxha. Vous connaissez, j'adore cette histoire. Nasreddin Hoxha, vous savez, personnage très très connu dans tout le monde oriental, roi des paresseux qui ne fait jamais rien. Et dans une de ces périodes de non-action, il rencontre un de ses copains qui lui dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je cherche un moyen pour ne pas mourir. Et ça marche? Pour le moment, oui. Ouais.
Au fond, vous vous demandez s'il n'est pas plus simple de mourir armé de magnifiques références littéraires et philosophiques sur le sens de la vie, le sens de la mort, ou s'il n'est pas plus facile de mourir comme un imbécile heureux.
Oui, peut-être. Ça peut tout à fait se concevoir. De toute manière, on n'en saura rien. La phrase qui reste fondamentale est celle de Sénèque. Nous savons tous que nous mourrons un jour, mais personne n'a jamais su qu'il était mort.
Ouais. Est-ce qu'un bon livre peut nous aider à bien mourir?
Oui, ah oui.
Lesquels?
Ah oui, surtout le
lequel
mien.
Et à part le vôtre?
Non, je crois que la compagnie d'un bon livre, auquel même on revient souvent, par exemple, je connais des gens qui ont passé leur vie à lire Proust, et même à le relire, à le pénétrer peu à peu, c'est un peu mon cas, ou Balzac, ça aide énormément, je dis Balzac et Proust, Molière et Shakespeare, ces quatre-là, sont morts à 51 ans. Vous vous rendez compte?
Alors, au même âge.
Au même âge, tous les quatre, très très jeunes. Et pourtant, ce sont des compagnons de vie. Ce sont des gens qui n'ont pas cessé de nous dire, à leur manière, ce que nous pouvons nous répéter aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'il y ait une vie après la mort. Beaucoup de gens le croient, des millions de gens le croient.
Vous racontez ça dans votre livre.
Il est sûr qu'il y a une vie avant la mort. Ouais. Et celle-là, il faut la faire belle et bonne.
Merci Jean-Claude Carrière. Ouais. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la nouvelle année ?
Alors, parlons du film de Louis Garrel qui va sortir, là, L'Homme fidèle.
Que ça marche, L'Homme fidèle, mercredi prochain, avec Laetitia Casta.
Il y a une très bonne presse.
Et vous l'avez coécrit.
Oui.
Gratuitement. J'ai lu que vous n'avez pas reçu d'argent.
Non, mais j'ai 5% du film. Quand même.
Ah, d'accord. alors, allez vite le voir. Donc, il y a le film et puis il y a le livre merveilleux, La vallée du néant, chez Odile Jacob. Merci à vous. Belle journée, Jean-Claude Carrière.
Merci Léa. À tout à l'heure.